Et voilà, bonsoir à tous, bonjour à tous, bienvenue sur les ondes du graphite 94.9, il est 18h07, aujourd'hui exceptionnellement on est en direct pour une interview exceptionnelle, pour une projection exceptionnelle qui aura lieu ce soir au Majestic. On reçoit avec nous Pascal Rabaté, Soazig, Segalou et Vincent Martin pour vous parler d'un film qui sera projeté ce soir au Majestic. Ça s'appelle L'Escendant, le réalisateur c'est Pascal Rabaté. Pascal Rabaté, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur notre antenne. On va parler un peu du film, mais avant ça, on va parler BD. Vous étiez cet après-midi à la librairie des Signes pour dédicacer votre dernier ouvrage. C'est quoi le pitch de votre dernière BD ?
Oh yo ! Je suis fauché, à chaud. C'est une histoire d'amour dans un cadre de la France un peu poussiéreuse du début des années 60. Où on croyait encore que les destins étaient écrits, qu'on ne pouvait pas faire bouger les lignes. Ça a débouché sur 68, d'où le titre. Donc c'est une herbe folle qui rencontre un peu une herbe en pot. Et on pense que les choses ne pourraient pas se lier. Il y a trop de différences. Il y en a un qui a des racines un peu trop profondes et puis l'autre qui n'en a pas. Et en fait, c'est l'amour qui va naître entre deux classes qui n'auraient pas dû se rencontrer. Il va y avoir des hauts et des bas. Et puis des hauts. Et des bas.
Mais aussi des hauts.
Vous avez un lien particulier avec Compiègne. Vous avez déjà exposé au mémorial de l'internement et des déportations précédemment, je crois, il y a à peu près un an et demi, deux ans, peut-être avec le Covid, on a un peu perdu sur les dates. C'était des planches originales qui étaient exposées, c'est ça ?
Ouais, j'étais avec Monsieur Coq qui avait fait un très bel ouvrage. On avait fait une exposition commune sur, en effet, la déportation. J'avais réalisé un an et demi avant. Deux ouvrages qui s'appelaient La Déconfiture, justement, sur la débâcle de l'armée française en 40. Et on avait fait une très belle expo. Enfin, l'expo, ils nous avaient fait un très bel accueil et j'étais assez heureux de venir là. Bon, j'ai une autre attache qui est Vincent Martin.
J'allais venir.
Mon grognard. Le vieux grognard de
l'ours. C'est le local de l'étape, on en parlera tout à l'heure avec Vincent, mais le local de l'étape, justement, c'est pour ça que vous êtes là ce soir à Compiègne pour présenter le film, à l'invitation de Vincent qui a un peu œuvré pour que le film soit projeté, parce que le film passe en avant-première, puisqu'il sort au mois d'avril 2022, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Donc on a un peu le temps. Donc venez le voir, vous ferez partie des Happy Few ce soir au Majestic à Compiègne à 21h. Je crois qu'il y a déjà pas mal de places de réservées, donc allez faire un tour sur internet, hein, vous pouvez réserver vos places à distance. Évidemment, il faudra le pass sanitaire pour pouvoir rentrer dans le ciné. Et ensuite, il y aura un échange avec une partie de l'équipe, avec Soazig. Du coup, vous êtes... Je vous ai demandé ce que vous faisiez tout à l'heure dans le film, puisque vous aviez le masque. Vous êtes une des actrices du film. Oui. Comment ça s'est passé un peu ce tournage avec Vincent et puis toute l'équipe qu'il peut y avoir derrière ?
Alors, il se trouve que l'équipe de Pascal... Il y a beaucoup toujours des personnes qui reviennent régulièrement. Donc Vincent, je le connaissais déjà. On était pas mal à déjà se connaître. Et puis, il y avait des petits nouveaux. Et la particularité de ce film, c'est qu'on est 12 comédiens à avoir tourné, je crois, pendant 15 jours, quasiment les 12 ensemble sur les mêmes scènes. Et c'est assez peu fréquent. Et du coup, déjà qu'on se connaissait, qu'il y avait un petit peu ce côté troupe, je pense que la cohésion était encore plus simple, puisqu'on n'avait pas les paroles, puisque c'est quand même un film où on ne parle pas. On grogne peut-être, mais on ne parle pas. Et du coup, le fait d'être tout le temps ensemble, je pense que ça a aidé aussi
à la construction du film.
Ouais. Avec le corps.
Justement, c'est donner autant de liberté aux acteurs. Je crois que ça a été un choix, en fait, sur la construction du film. Vous leur avez proposé les personnages et ensuite, vous leur avez dit, vous n'avez pas parlé, mais choisissez un peu un grognement, une façon de vous exprimer chacun dans votre personnalité, c'est ça ?
C'est un peu le film des libertés, c'est-à-dire que je parlais d'une communauté. Le film parle d'une communauté plutôt fraternelle. Enfin, c'est des frères et des sœurs de cœur. C'est les gens qu'on a laissés sur les bords, qu'on leur a donné juste les espaces, les charges publiques pour se réaliser. Ils viennent tous d'horizons différents, donc ils n'ont pas de langue commune. Et donc, dans cette espèce de tour de Babel imposé, quel langage va prendre le dessus? En fait, il n'y a pas de langage qui prend le dessus. Il y a celui du corps, celui du visage, celui des expressions, qui fait qu'ils vont sûrement recréer une langue qui va revenir par l'enfant, sûrement. Mais voilà, c'est des gens qui retrouvent une humanité auquel on les a exclus et qui reforment un espèce de clan qui est soudé, qui a à la fois une certaine brutalité, une certaine rudesse, un côté rustre, et en même temps, le regard qui se porte les uns sur les autres, c'est un regard... d'amour. Donc après, moi, j'ai demandé aux acteurs, je leur ai dit, voilà, j'ai fait la proposition, ils ont tous dit oui, et j'aurais dit, trouvez-vous une identité, trouvez-vous un langage, et puis je vais être là pour filmer vos frasques. Mais en fait, la chose était écrite, mais j'attendais beaucoup de chacun, et ils m'ont donné beaucoup.
Moi, j'avais un peu plutôt pensé à se dire que c'était aussi pour pas donner de marqueur social en fait au personnage, c'est-à-dire que ça peut être très bien un campagnard avec l'accent du Pas-de-Calais ou quelqu'un de banlieue aussi pour leur enlever l'identité, pour que chacun puisse un peu se retrouver dans les personnages. Est-ce que c'est mon invention ou est-ce que vous avez réfléchi à ça?
Ça peut être interprété comme ça. Enfin, la chose, c'était vraiment parler d'une société où il y a plus d'écrit. Il n'y a pas une seule lettre, il y a des chiffres, c'est les maillots, mais il n'y a plus une seule lettre et il faut recréer les choses. Donc il y a presque un côté pariétal dans les grottes. Mais c'était c'est essayer de faire un film qui soit universel ou qui soit vu en Corée du Sud et même du Nord, pourquoi pas, au Brésil, enfin partout. Et que les gens aient le même objet sans qu'il y ait quelqu'un qui intervienne dessus pour le tordre. Ça peut pas, quand je dis le tordre, ça peut être une traduction, ça peut être un doublage. Et voilà, c'était cette proposition de faire quelque chose qui soit la liberté, même si le terme est un peu galvaudé, mais une chose un petit peu pure. Et de me dire, voilà, je vais le présenter en... pas besoin de le défendre avec les mots. J'ai assez confiance dans ce qu'ont donné les acteurs. Quoi.
Pas de musique. Alors pour moi, c'était moi qui suis un homme de radio et de musique. Pas de musique, pas de paroles. C'est un peu rude au départ pour rentrer dedans. Au départ, on se dit, mais moi, j'ai eu une version de presse. Donc je me suis dit, mais est-ce qu'il manque la bande-son ou un truc? Et après, on me dit, bah non, en fait, finalement, c'est comme ça. C'est quoi le choix de ne pas mettre de musique dans un film? En fait, on ne se rend pas compte, mais la musique dans un film, c'est ultra important. Et quand elle disparaît, eh ben, on s'en rend compte directement, quoi.
Ben, on s'en rend compte ou pas, parce que je pense qu'il y a le film, c'est le film sur lequel on a le plus travaillé la bande-son. Parce que quand on dit film sans dialogue, tout le monde pense à film muet. Non, c'est un film sans parole, mais c'est un film extrêmement sonore. Donc on a l'ingé son avec qui je travaille depuis des années et des années. C'était pour lui une chance, Jocelyn Robert. Il s'est amusé comme un fou à essayer de...
capter les ambiances.
Travailler avec le son direct, parce qu'il y avait tout le jeu d'acteur, justement, était les présences physiques, toutes ces choses-là, il fallait les choper. On avait vraiment quelqu'un qui était très pointu. Mais dès qu'on se retrouvait sous la canopée, sous ces choses-là, il fallait recréer un espace qui nous fasse oublier le vrai espace. Parce que, évidemment, c'est du cinéma. Donc, la surface n'est pas sur le même lieu que la profondeur. Mais c'était essayer de vraiment trouver des identités, des résonances, donner une identité à chaque espace qui était filmé et lui faire raconter les corps. Et je ne voulais pas polluer ça avec de la musique, surtout qu'il y a un morceau de musique, mis à part le générique, qui était pour moi une scène clé. Et fallait que je prépare un peu l'habillage de cette scène, préparer un peu ça pour faire un peu, je dirais, un peu la scène cathédrale de ce film, qui est la scène de danse.
Quand vous dessinez, est-ce que c'est pareil? Est-ce que du coup c'est des images sans son? Est-ce que vous imaginez l'ambiance quand vous dessinez une BD? Est-ce que vous êtes dans un univers ou non? Vous dessinez dans le silence?
Non.
Alors moi, là, on dirait une question de psy. Hein. Allongez-vous.
Non. Quand j'écris, je suis dans le silence. J'écoute beaucoup de musique répétitive quand je peux écrire. Bon, ça va à la fois des musiques électroniques à des choses. Mais même, j'allais dire, du Fela Kuti, par exemple, c'est de la musique un peu... C'est des énormes morceaux, mais il y a de la parole, et du coup, ça, j'ai du mal à écrire. Par contre, quand je dessine, alors là... Moi, je regarde des séries.
Et c'est automatique.
Ah oui, moi, je regarde des séries en dessinant. Enfin, c'est des trucs. Je vous dis même pas ce que je regarde. Parce que ça va. Heureusement, de temps en temps, j'alterne. Aujourd'hui, on me dit, oh, tiens, j'ai regardé un documentaire sur Joseph Beuys, artiste allemand des années 60-70.
Ça se retranscrit dans l'image ou pas? Dans le dessin?
Non. Mais après, justement, après, je vais vous dire que j'ai regardé une connerie de TF1, France 2 ou je sais pas quoi. Non.
Vos précédents films étaient accompagnés justement par la télévision. Je crois que c'était Canal qui avait... Ouais. Là, il n'y a pas d'accompagnement télé. Pourquoi? Non. C'est la période du Covid qui fait ça? Est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait pas de son? C'est le format qui est un peu différent? C'est quoi?
Je pense que la proposition était trop radicale pour se retrouver sur une chaîne télé. Enfin, Canal+, on l'a eu à un moment. Puis bon, ils sont retirés de l'affaire. Mais tout ça, c'était des histoires avant Covid. Je pense que la proposition était trop radicale et puis il y a eu beaucoup de changements à Canal qui ont fait que les financements sont plus compliqués. Donc c'était de se dire, est-ce qu'on part avec un budget moindre? Donc on a averti tout le monde et puis moi j'étais prêt. Après on a demandé à tous les gens, que ce soit acteurs et techniciens, de bosser à des conditions qui étaient économique, comme on avait, j'adore ce terme, qui est des budgets raisonnés. C'est des budgets raisonnés, mais non raisonnables. Mais j'ai été voir, alors j'avais tous mes petits camarades, toute ma troupe, qui n'a même pas regardé, qui n'a même pas dit oui, enfin qui n'a même pas lu
le scénario. Ouais.
Ils ont dit, bah, on part.
On ne comprend rien, on y va.
On n'y comprend rien, on y va. Il y a Yolande Moreau qui a dit, mais je te dois au moins un film, donc j'accepte sans signer. Donc on l'a dit à Gustave Kervern, qui a dit, bah, moi aussi je l'aurais fait, donc je ne le lis pas. Et puis après, il l'a lu. mais voilà, c'est des gens qui sont venus pour le projet, pour ce que ça défendait, au niveau des idées et au niveau de la forme. Parce que je pense le fait de travailler tous ensemble pendant 15 jours, enfin je parle de la troupe, après il y a les scènes de
commissariat. Hein.
Où François Morel était super content, il m'a dit, je vais retrouver ma copine Yolande. Ils se sont pas croisés sur le tournage, donc là c'était un rendez-vous raté. Ils se sont vus en dehors, hein. Je rassure quand même, mais c'était une proposition presque théâtrale dans l'esprit, c'est-à-dire 12 jours. Alors le soir, je les abandonnais, moi, parce qu'il fallait qu'on avait des journées de travail qui étaient, il fallait que je bétonne vraiment pour avoir tout ce que je voulais. Et c'est assez rare, parce que dans le cinéma, c'est quand même un médium de la frustration, où vous avez des budgets, et un moment où vous ferrognez des choses, qu'il n'y a pas le temps, il faut sacrifier des scènes pour d'autres. Et là, ce n'était pas du tout dans ce que je voulais. Il se trouve que le chef opérateur était dans la même dynamique. Et le salaud était plus jeune.
Donc il se couchait plus tard et il se levait plus tôt ?
Ah ben non, non, il buvait pas, il faisait rien, mais surtout que non, il me forçait à coucher en même temps que lui. Donc, c'est-à-dire à 2-3 heures, il était là, bon, je crois qu'on a tout bétonné, on se voit à 6, d'accord. Même à 4, parce qu'il y avait des trucs. Et donc on essayait vraiment de rentrer tout le projet et de faire vraiment tout ce qui était écrit. Et donc les acteurs, eux, bossaient toute la journée, se retrouvaient le soir. Il y avait un truc vraiment de cohésion, comme après une pièce de théâtre où l'équipe se retrouve et discute, débrief. Enfin voilà, c'était un peu une fête où moi je supervisais, mais je n'avais pas le droit. J'étais dans la salle des fumeurs, alors que je ne fume plus.
Toi justement, Vincent, toi qui es issu du théâtre, hein, qui es issu du monde de la rue, est-ce que tu as retrouvé ça dans... Ça arrive souvent qu'on retrouve cette énergie et cette façon de fonctionner dans les films. Là, en plus, tu as mis un peu de côté le côté troupe. Aujourd'hui, tu te consacres un peu plus au cinéma. Est-ce que du coup, est-ce qu'on retrouve régulièrement ce genre de fonctionnement?
Moi, dans ma rencontre avec Pascal, c'est clair qu'il y a déjà le croisement d'un univers qui, pour moi, est très proche de ce que moi, je mets dans le théâtre. Mais c'est un autre langage, de par la BD, de par le cinéma. Et du coup, moi, je m'y retrouve pleinement dans chaque écrit, chaque image, chaque proposition de scénario m'emballe, quoi, parce que j'ai l'impression que... je sais pas, comme si on... c'est proche, quoi.
Ouais, ça aurait pu être des personnages du tunnel, quoi, par exemple.
Oui, oui, complètement.
Ah, mais d'ailleurs, on en avait parlé
un moment de mettre en BD les du tunnel. Ouais.
Ouais,
De faire vivre
ou d'essayer de voir. C'est vrai.
C'est un projet en cours. Ouais.
Pour les auditeurs qui savent pas ce que c'est, tu peux nous faire un peu le pitch du tunnel.
C'est pareil, c'est un spectacle muet parce qu'il y a pas un mot, il y a pas de dialogue, c'est que des images successives et c'est très BD parce que c'est les images qui est un peu comme des diapos quand on regarde les diapos en famille ou un peu quand on feuillette les albums de famille, t'as l'impression que c'est toujours les mêmes choses parce que c'est toujours les mariages, les baptêmes, les jours heureux. T'effaces un peu les jours tristes, mais il y a quand même les enterrements qui traînent, il y a quand même... Et donc, voilà, du tunnel, c'est trois quarts d'heure d'images qui défilent les unes après les autres, et t'as l'impression de voir ta famille, de voir... Ça parle à tout le monde, c'est universel, simplement dans l'émotion des regards fixes, en plus, parce que les acteurs sont... Non seulement ils parlent pas, non seulement il y a... Bon, par contre, il y a beaucoup de musique, mais par contre, ils parlent pas, il y a pas de dialogue, et c'est des acteurs qui sont fixes tout le temps. Donc, quelque chose de très proche avec Pascal dans l'univers artistique. Moi, j'ai l'impression qu'on est né sous la même étoile.
Soazic, toi aussi, t'es issu du théâtre à la base, c'est ça?
Moi, je viens de la danse.
De la danse, ok.
Oui, je viens de la danse et
alors, quand t'es tombé avec eux, alors du coup, comment on arrive de la danse et puis on arrive avec ces hurluberlus?
Alors, en fait, j'ai tourné dans Ni avant ni alloué en tant que danseuse dans le film. J'ai rencontré Pascal. Je ne l'ai plus quitté depuis, c'est mon compagnon. Voilà, donc c'est un peu aussi comme ça. Mais moi aussi, je viens de la danse, mais je faisais beaucoup, beaucoup de festivals des arts de la rue. Donc voilà, on est tous, il y a Marie-Pascal aussi. On est plusieurs à venir de la rue, j'ai envie de dire. Et du coup, voilà, on a ce terreau commun un peu, je crois.
Là, aujourd'hui, on voit le film à Compiègne. Ensuite, c'est quoi un peu la vie du film avant le mois d'avril, avant le 22 avril, c'est ça? Le 22 avril? Non, 22...
Oui, c'est entre les deux tours. Super bonne date, je ne sais pas, on verra. Hein. Entre deux catastrophes.
Il y a une tournée de projection, tournée d'avant-première, de visite avec l'équipe du film?
On va essayer, mais c'est vrai que là, la chose a été... J'étais en train de finir mon dernier ouvrage de BD et un libraire m'a invité et il m'a dit nous on était en stand-by avec ce film, il n'y avait pas eu de projo équipe, il y avait eu des soucis.
Il y avait un an et demi de rien. Quoi.
Il y avait un an et demi de rien. Et ce libraire, Christophe Duprat de Quimper, m'a dit ça serait bien que tu viennes, ça nous ferait plaisir. J'ai dit je peux pas, vraiment, je. Il m'a dit, mais on passerait ton film. Et puis je lui dis, si tu me trouves deux salles, ça serait génial. Et il m'a rappelé, il en avait trouvé sept en Bretagne. Là-dessus a démarré une petite tournée. Et puis je me suis dit que l'époque, on en a parlé avec Vincent quand tu étais passé à Nantes. Et je me suis dit, il faut tirer des leçons de tout. Et je me dis, tiens, pour une fois qu'on peut peut-être présenter le film... en avant-première en province et dans les petites villes. Pour une fois que la province va avoir la soupe avant tout le monde, elle n'aura pas froide ni tiède. C'est peut-être une occasion et c'est peut-être quelque chose qui fait que, j'étais après 2 ans de séquestration, comme tout le monde, dans mon trou à me dire que j'avais envie de rencontrer les gens, de voir des réactions aussi, je dirais, à chaud. Des réactions fraîches à chaud, mais de voir un peu comment réagissait le public, un public qui n'a pas été pollué par une affiche ou une bande-annonce ou des critiques ou des interviews, de me retrouver face à un public qui est assez vierge sur un projet qui est on dit radical, mais je repensais à ce que tu disais, on sortait de Ni avant ni alloué qui était sans dialogue, et quand Vincent était sorti de la salle, il était super content, il y avait un truc, il m'a dit « faut que tu fasses encore un autre, encore plus radical ». Et donc après, je me suis dit, quand je suis arrivé avec celui-là, j'ai dit « j'espère que là, Vincent va être content ». J'espère que Vincent est content.
C'est dans quoi la radicalité dans la proposition,
dans la proposition formelle.
Du coup, c'est quelque chose qui est plus poétique, c'est une proposition poétique, pour vous, c'est quoi?
C'est poétique, politique, enfin c'est J'en discutais avec la distribution où il me disait ça serait bien de trouver une accroche. Et je dis bah l'accroche, ça peut être c'est un film poétique de gauche. Voilà. Enfin bon, c'est plus ou moins.
Ils l'ont pas gardé, du coup ils l'ont pas gardé. Voilà.
Bah, ils réfléchissent, hein. C'était ça où.
C'est jour de fête, votre discours, c'est ça. Mais... C'est jour de fête. Ouais.
Non, mais on en discutait de cette. Non, cette idée-là leur plaisait assez, mais après on a encore un petit peu de temps. Mais c'est vrai que c'était. C'est d'abord une histoire. C'est le constat de ce qui se passe, de ce qu'on voit dans la société avec tous ces gens qui sont laissés sur les bords. Un problème de migration qui est mis sous le tapis. Enfin, c'était de me dire que je ne voyais pas de. Soit on en parlait de façon assez misérabiliste, soit on n'en parlait pas. Et mon terreau, il est italien, moi. C'est, quand je dis italien, c'est pas mes racines. Enfin, mes racines, j'en ai pas. Mais j'ai été très influencé par le cinéma des années 70-60 de Risi, Monicelli, Elio Pietri, Rosi, Risi, j'en passais des meilleurs. Mais tous ces gens-là avaient une façon de parler du social sans tomber dans le
pathos et dans le second degré.
Et en montrant des gens qui sentaient la sueur parce qu'ils avaient bossé, qui étaient des fois cruels, mais derrière tout ça, il y avait une humanité. Quand on regarde Pain et Chocolat, ça n'a pas vieilli sur le propos. Et ces choses-là, on ne les a pas trop en France. On a une espèce de. Il y a un esprit un petit peu entre guillemets où on regarde les gens à la loupe. C'est pas ce que j'avais envie de faire, et c'était pas non plus ce que j'avais envie de regarder.
Donc un peu le némésis des tuches.
Oui, enfin, je ne vais pas parler du tuches, parce que j'en ai pas vu beaucoup. J'en ai vu un qui m'a pas. Je me suis pas senti en fraternité avec ce. Après, moi, je vais pas juger. Et je pense en plus que les gens qui ont fait les films et qui les ont écrits n'ont pas écrit ça avec mépris. Après, bon, bah voilà.
Non, mais je pense que c'est deux univers très différents.
Justement, c'est vraiment, je pense, le pile et le face d'une face. Je pense que ça pourrait coller tout à fait avec un peu les mêmes fonctionnements avec voilà, le côté populaire et puis le côté plus radical pour votre film, par exemple.
Voilà. Mais je pense pas avoir fait dans la forme, c'est radical, dans le propos, c'est des interrogations que peut avoir tout un chacun. Après, le film pour moi, c'est un film populaire parce qu'on fait pas, après qu'il trouve un public ou pas, ça c'est autre chose. Mais je m'adresse à tout le monde. Enfin, il n'y a pas de discours supérieur avec ce projet.
Alors, je suis trop jeune pour les films des années 60 italiens, mais j'ai trouvé un petit côté petit quinquin. J'ai trouvé un peu l'univers. Est-ce qu'on vous l'a déjà dit ou pas ?
On me l'a dit, oui. Ouais. On m'a dit, on m'en a parlé. En effet, c'est quelqu'un qui a fait. Enfin, je le suis depuis le début, que ça soit la vie de Jésus ou l'humanité. Il y a un regard qui est justement assez intéressant. Alors bon, en plus de ça, lui, c'est un vrai plasticien en termes d'images. Quand on voit les premières images de l'humanité, il y a des références. Enfin, tout le film est une référence à la peinture flamande. Et il y a des Flandre, c'est pareil, c'est des très 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 belles plastiques, enfin une très belle réflexion. Je peux pas dire que j'aime tous les films. Je suis un peu resté à côté de Maloute, par exemple. Mais Le Petit Quinquin m'avait énormément plu parce que justement, il cassait les codes. On se retrouvait sur quelque chose de très. C'est pas du surréalisme, c'est du décalé. C'est quelqu'un qui ose, qui ne se censure pas. Et ça c'est déjà énorme. Parce qu'on a ce poids en tant que créateur, quand on parle avec des financiers ou des gens qui des partenaires, ils vous instillent le doute parce qu'ils pensent que ça serait mieux de raboter dans les angles, de ça c'est trop trash, ça c'est machin. Et au bout d'un moment, quand vous êtes en phase de montage, on est en train de limer les bords du marbre pour vous voulez faire une table carrée, vous vous retrouvez avec une table ronde. C'est pas. Et du coup, c'est se batailler contre soi-même, justement, pour assumer aussi le gras, pour assumer le gras, parce qu'il y a du bon gras, que pour le cholestéral vous le dira, et assumer toutes ces choses-là. Et où, en effet, Dumont pousse le bouchon très très loin, où vous dites « Waouh, il est quand même fortiche là-dessus ». Donc après, en effet, c'est sans se mettre dans ses roues, c'est de se dire il a raison là-dessus. Il faut à un moment assumer ses trucs et puis ne pas avoir honte de dire je vais faire du cru.
On va faire une courte pause musicale avec Nathalie Bergman, le titre qu'on a écouté tout au début de cette émission. On se retrouve juste après également, si vous voulez voir la vidéo, on est en Facebook Live. Et on vous donne rendez-vous à 20h au Majestic à Compiègne pour le film L'Escendant, projection ce soir. De retour sur les ondes de Graphite 94.9, on est en direct aujourd'hui jusqu'à 19h pour une interview en compagnie de Pascal Rabaté, de Soazic Segalou et de Vincent Martin, le local de l'étape pour une projection qui sera ce soir au Majestic. C'est à 20h, c'est aller voir du cinéma, hein. De toute façon on ne vous reconseillera jamais de retourner au cinéma, surtout si on a un nouveau confinement, c'est le moment d'y aller maintenant. Vous avez été beaucoup au cinéma depuis la reprise, enfin est-ce que vous allez d'ailleurs tous les deux beaucoup au cinéma ou pas?
Non, moi, on a privilégié un peu le spectacle vivant là dernièrement parce que c'était vraiment un manque. Donc on a vu ces dernières semaines, on a été voir deux spectacles de danse.
Ah non, ce théâtre, enfin, c'est tout est un peu mélangé maintenant. C'est tant mieux.
Ouais. Et puis j'ai vu quelques films en salon, enfin pas en salon.
Mais en projection, pendant les.
On est beaucoup à droite à gauche. Ouais. Et, ouais.
C'était quoi? C'est le festival du film pas populaire, mais il y avait, c'est pas ça. Ouais, vous avez pas fait un
festival du film ouvrier. Et puis on était juste avant
à Cavaillon aussi.
À Cavaillon qu'on a vu, films. On a vu quelques films.
Là, c'est quoi le retour des spectateurs? Ils disent quoi quand ils sortent du film? C'est quoi leur...
Alors, il y a quelqu'un qui n'avait pas aimé, qui l'avait dit. Mais lui, c'était la suppression du verbe, l'avait extrêmement perturbé. Il m'a dit, moi, je suis libraire, ça ne se passe pas. Mais après, on a beaucoup de retours, notamment de dames d'un certain âge qui trouvent le film super drôle, super intéressant. Enfin, on a des bons retours généralement. Après, tout le monde.
Il n'y a pas un mot, ils disent pas. Je sais pas. Vincent, vous l'avez vu du coup en projection?
Oui, on
l'a
vu en projection d'équipe et moi je m'étais interdit de le voir avant. Je voulais vraiment le voir avec l'équipe et en, dans de bonnes conditions et j'ai été mais sidéré quoi. Ça m'a scotché sur place. J'étais pas le seul. Toute l'équipe a réagi de façon. C'était émouvant même, je trouve, les réactions de l'équipe. Parce qu'on s'attendait pas à ce que ça aille aussi loin, justement, dans. Il y a un truc qui transpire de ce film, moi, que je trouve magnifique, vraiment magnifique.
La paroisse que vous avez tournée, il y a beaucoup de choses qui ont été retirées au fur et à mesure ou...
on est obligé, parce qu'il y avait beaucoup de matière, et après, il faut trouver le rythme du film. Donc, c'est des petites coupes par-ci, des petites coupes par-là. Mais je pense qu'on a gardé toutes les scènes. Alors, il y en a qu'on a condensées. Mais on a tout gardé, ouais. Après, c'était de vraiment trouver le rythme du film, trouver cet habillage qui fasse que, bon, à un moment, ça peut tourner en rond. Mais comme chaque scène avait une espèce de... Toutes les scènes ont été conservées. Elles avaient toutes un registre poétique différent. Il y avait chaque scène véhiculait aussi une émotion différente. Donc, je pense que je voulais éviter que ça soit bancal et ça avait été écrit comme ça parce que... Pour ces raisons-là aussi, quoi.
Du coup, vous écrivez un scénario et ensuite un storyboard ou pas du tout scénario et puis ensuite...
Non, scénario. Il y a quelques dessins qui accompagnaient le projet pour essayer de séduire. Bon, faut croire que je dessine mal, ça va pas séduire grand monde au niveau du financier.
Le CNC, le CNV, ce genre de choses. Pas le CNV, c'est ça le cinéma.
C'est la télé essentiellement. Mais il y avait des dessins pour les effets numériques, pour qu'ils sachent un peu, parce qu'il y a quand même pas mal d'effets. Qui sont plutôt bien, enfin qui sont bien faits parce que je pense
oui, carrément.
Et c'était compliqué, mais ça, ils ont fait du très très bon boulot. Mais il y avait ces dessins pour accompagner, mais le storyboard, j'en ai fait une fois, c'était pour Ni Avant Ni Alloué, et au premier jour de tournage, j'ai tout foutu à la poubelle. C'était pas, je voulais faire confiance, je voulais que l'espace et les acteurs ne soient pas. Comment dire, c'était pas des marionnettes.
Enfermé dans une case, quoi.
Donc il fallait que j'aie en face des gens vivants et avec des propositions et que moi je sois disponible à recevoir cette offre et ce don. Donc le storyboard peut enfermer les choses. Enfin, pour moi, je m'interdis de le faire parce que j'ai pas envie de cloisonner ça. Si je voulais faire des storyboards, je ferais du dessin animé. Et le dessin animé a fait des très belles choses, mais c'est pas mon rythme de travail. C'est trop lent, c'est trop long. Puis moi, j'ai besoin d'avoir en face quelqu'un qui me chante la partition et qui m'emmène ailleurs. Un film, c'est une proposition de voyage et c'est très bien quand on ne descend pas dans la gare qui est prévue. Et c'est ce que je recherche aussi, c'est que les gens m'emmènent. Je suis même pas le conducteur du train.
C'est les acteurs le conducteur du train ?
Oui, c'est les acteurs.
Ah, c'est impressionnant, hein, sur le plateau, c'est vraiment... moi, je trouve que c'est une façon de travailler très particulière, notamment sur ce film-là, où pour moi, le scénario était quasiment illisible, que j'ai pas compris. J'ai compris vaguement où il voulait aller, enfin... Oui, le décor, la description de cette famille, mais il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment... et du coup, ça porte vraiment sur l'engagement que nous, on y a mis. Et ce qui avait vraiment d'étonnant, c'est que chaque scène qui se mettait en place, il n'y avait pas de direction d'acteur. C'était vraiment une confiance absolue entre lui et nous, des espèces d'allers-retours, de propositions. Et ça avançait comme ça, plan par plan, sans qu'on discute beaucoup, sans qu'on... Tout se mettait en place naturellement, quoi, comme si c'était la vie, quoi, toi. On tournait un truc qu'on ne comprenait pas bien, mais on y allait. On se disait, qu'est-ce qu'on fait là? Mais c'est avant, c'est après, c'est quoi, c'est où, c'est quoi? Peu d'importance, quoi, toi. On y allait, un peu comme dans la vie, quoi.
C'est plus facile pour un acteur d'être libre comme ça plutôt que d'être cadré avec « mets-toi ici, joue comme ça ».
Là, c'est parce qu'il y a une histoire entre lui et ses acteurs, quoi. Et clairement, quoi, il n'y a pas un acteur qui est là, chaque acteur a vraiment une raison humaine dans sa rencontre avec Pascal Rabaté. On n'est pas là par hasard, quoi. C'est ce qu'on se dit, d'ailleurs, tous, quoi.
Le dessin. Les gags étaient écrits, il y avait beaucoup, mais il y en a d'autres qui étaient surgissants. Et c'est mon rôle aussi de les accepter, de voir comment les choses vont être interprétées ou comment ça va se tordre. Et la torsion, justement, peut être beaucoup plus belle qu'une baramine toute droite, quoi.
Le dessin animé, on vous l'a proposé de réaliser une de vos BD en dessin animé ?
Oh, c'est arrivé avec Ibicus, hein, le projet le plus, au niveau de l'écriture picturale, qui était le plus tremblant. Et on m'a proposé ça. J'aurais dit, si vous réussissez à faire aussi sale que j'ai fait, bah, pourquoi pas. Mais le mener à bien, c'est des 6-7 ans d'engagement de fabrication, avec quelque chose qui fait que un monteur en cinéma d'animation, il coupe une image, deux images, trois, quatre images, mais tout est écrit. Ça coûte tellement... tellement cher qu'il faut que tout soit cadré. Et c'est pas là-dedans que j'ai envie de m'éclater, j'ai envie que les choses m'échappent. Enfin, pour moi, l'art, c'est l'échapper, c'est pas le contrôle. C'est savoir le saisir. Ça veut dire répéter en effet, discuter en amont et voir un peu comment se groupe. Parce qu'en fait, il y a que des rôles principaux. C'est comment ce groupe va trouver une cohésion entre eux et comment ils vont se répondre. Je dois être prêt à capter ça. Il y a l'écriture qui a cerné les scènes, mais là-dedans, c'est cette liberté. La scène de danse que je parle, ouais, de cathédrale, c'était un peu le nerf du projet. C'est-à-dire que les gens qui ne faisaient pas partie de la troupe ont été castés sur la danse. Et ce n'est pas les meilleurs danseurs. C'est les danseurs les plus vrais dans le don qui ont été pris. Et cette scène-là, ben, en effet, tu n'écris pas une scène comme ça. Tu as une musique, tu as quelque chose, et puis là, tu demandes à chacun de rentrer là-dedans, de rentrer en transe. Moi, je suis là avec l'équipe image et son pour choper ce qui va se passer en termes de don. Et réellement, là, j'ai été servi.
Soazic, vous avez été la casteuse pour du coup la partie danse.
Non, pas vraiment. J'ai regardé quand même. C'est lui qui était sur place. Et puis après, c'est vrai que j'ai regardé avec lui
au montage,
notamment la personne qui joue mon amoureux dans le film, Romain Francisco. Il y avait d'autres qui étaient très bien, qui avaient en plus des physiques, un mec de plus de 2 mètres, enfin voilà, où il y avait des choses hyper intéressantes à faire aussi. Mais quand lui, il est arrivé, effectivement, et qu'on a mis la musique, il s'est tellement donné, il était tellement investi dans tout son corps. Moi, j'ai dit à Pascal, j'ai dit, écoute, celui-là, quand même, il y a quelque chose. Enfin, moi, je savais en plus qu'il allait jouer quand même un rôle important avec moi. Et je lui ai dit, écoute, celui-là, je le sens bien quand même. Donc voilà, j'ai mis un petit peu...
La pression. Il y a des acteurs qui ont refusé, il y a des acteurs qui n'étaient pas dispo ou qui se sont dit, qui ont vu le film aujourd'hui. Quand on construit une équipe comme ça, c'est quoi? C'est direct, on a déjà une shortlist, ou est-ce qu'on va plus loin et ensuite la shortlist, elle se réduit?
Alors, j'avais déjà toute mon équipe. Enfin, une grosse partie de mon équipe, c'est-à-dire qu'il y avait, il me manquait les jumeaux, mais c'est pareil, c'est des petits acteurs qu'on bossait un peu partout, mais qui sont danseurs de hip-hop, donc c'est vrai que comme ils sont jumeaux, il y en avait un qui était un peu lent, l'autre qui était rapide, et ils m'ont fait un truc, et j'ai dit bon, bah, ok, on va laisser peser, on va pas traîner là-dessus. Mais non, j'ai eu. Sur les acteurs, j'ai vraiment fait mon marché. Et j'ai pas eu de refus. Il n'y a pas eu de refus. Il y avait des rôles, en effet, où j'ai hésité à proposer ça à d'autres. Mais bon, Vincent, David Salle, Charles Schneider, c'était déjà des vieux de la vieille. Ils étaient déjà là au Petit Ruisseau. Donc eux, ils m'auraient dit non, ça serait mal passé. Non, mais on en parlait, je savais déjà les envies de qu'on se retrouve, parce que c'est aussi ça. Morel, on avait fait trois, on est rendu à quasiment à 3 bouquins ensemble, et puis quelques affiches et 2 films. Donc c'est pareil, il m'a dit je viens. Et Yolande, ça a été pareil. Donc je me suis retrouvé avec le gratin. Et après, il me manquait, en effet, il fallait que j'élargisse un petit peu la tribu. Et donc, c'est vrai que c'est là qu'on a casté les gens. Y a le policier Olivier Parenti que Soazic avait rencontré à un stage de formation avec Puzulu. Elle m'a dit, il faut que tu le rencontres.
C'est qui Puzulu?
Bruno Puzulu.
C'est un acteur, je ne sais pas.
C'est un acteur, ok.
C'était un danseur.
Non.
Et donc, lui, c'est pareil. Je me dis, je vais le rencontrer, sait-on jamais. J'ai vu un individu qui était très, très étonnant, un espèce de charisme assez fou, très à l'écoute, avec des yeux énormes comme ça, toujours à regarder. Je me suis dit, tiens, ça va être intéressant. On a discuté plus du projet, puis je me suis dit, moi, je vais prendre le risque. Enfin, je ne vais pas prendre un grand risque. J'en ai pas pris, parce qu'en effet, la personne avait un pouvoir comique et une présence assez belle. Mais en fait, ça s'est vraiment fait comme ça. Après, j'ai eu des refus, en effet, sur les castings, notamment sur le rôle que joue Marie-Pascale, où j'ai casté une dizaine de personnes, de dames qui avaient entre 65 et 75 ans. Et j'ai des femmes qui ont refusé de danser. Donc ça a été vite soldé.
Ah, ça va plus vite, hein.
Ça va plus vite. Ah ben là, c'est le truc-là. Je dis, mais elle me dit, ouais, je peux faire un texte. Je dis, non. Je balance du Gaber. En plus, c'est l'ancêtre de la techno fait à la truelle et au marteau piqueur. Et là, elle m'a dit, bah non, désolé, ça le fera pas. Ben, j'ai dit, écoutez, c'est vous qui l'avez dit.
Là, vous avez tourné où ? C'est où cette décharge ? C'est une vraie décharge ou c'est une décharge que vous avez ? Parce que là, du coup, c'est une décharge et en même temps une grotte. Est-ce que les deux sont vraiment collés ou est-ce que c'est la magie du cinéma ?
C'est la magie du cinéma. Mais on a tourné beaucoup dans le Vexin.
Ok.
Il y a la décharge de surface, c'était du côté de Cergy-Pontoise.
Ouais, c'est la grande décharge, ouais. À ciel ouvert.
Celle-là, on n'a pas eu droit. Trop mauvaise publicité pour le patelin. Okay. Il paraît qu'elle a été
nettoyée. Ouais, c'est ça.
Partie,
ouais.
En tout cas,
ils avaient projeté de la nettoyer totalement. Ouais.
Ouais. Mm. Bah ça, on avait été avec Angelo, on était fous, quoi. On se disait, mais c'est plus beau que tous nos rêves. Enfin bon, la honte totale quand je dis ça. Mais c'était magnifique. Et on en a trouvé une autre qui était merveilleuse, qui était peut-être plus intime, mais il y avait cette espèce de langue de merde là, qui tombait, là, qui était vraiment impressionnante. Et ça, c'était chez un particulier. Ça s'était fait en quelques mois. Voilà,
C'est des gens qui sont venus déposer, puis déposer, puis déposer.
Mais des gens du BTP,
ouais, c'est ça, souvent, c'est
gens qui vendaient des prestations pour aller débarrasser les gravats et les ordures, et puis en fait qu'aller les foutre dans un champ. Du coup, après, ça y a un phénomène de contamination assez rapide. Et les grottes, c'était dans une des anciennes champignonnières du côté de...
Magny-en-Vexin.
Il n'y a pas eu de maladie, il n'y a pas eu personne qui a chopé.
Non.
Ils ont tous eu leur rappel de vaccin, etc. Ouais.
Non, mais même, je pense qu'on a réussi à vaincre le Covid grâce aux baignades dans cette eau polluée. ou peut-être le truc qui rince les voitures, je ne sais pas.
On a chopé le rabatté, c'est tout.
C'est vrai que la partie où il s'est en train de nager dans une espèce d'eau croupie, là. Ça donne pas envie.
Elle était bonne, par contre. Oui, elle était pas froide, ça, c'est déjà ça.
Bah non, c'est l'avantage des algues vertes.
C'est quoi leur. Du coup, c'est quoi les caprices de stars qu'ils ont fait, vu qu'ils n'ont pas été payés beaucoup, on l'a compris. Est-ce qu'ils ont demandé des choses particulières pendant le tournage ?
Il fallait que je sourie le matin et le soir. Je dise merci le soir. Non, aucun caprice. Aucun caprice. C'était.
Oui, c'était dur, hein, parce qu'il faisait froid, il pleuvait beaucoup. Hein.
Ouais.
Dans les grottes, il fait entre 12 et 13 degrés.
Dans les grottes,
il
faisait très bon,
temps,
parce que du coup, quand tu sortais, tu n'avais même pas le soleil, alors qu'on était...
Ouais. Non, il y a eu des grosses chaleurs sur la scène de danse. Ça, c'était compliqué. Là, j'avais un peu peur, parce que c'était
exact, ouais.
Ça a été assez intense, mais enfin, on n'a pas fait beaucoup de prises, parce que ça a été tout de suite, le truc est rentré... Il y a eu deux plans généraux, et puis après, la caméra était avec vous, et c'est vrai que c'est les plus belles scènes, quoi.
Non, c'est vrai qu'on avait un tel plaisir à être tous ensemble que à partager ces 12-13 jours de tournage, c'est combien ? C'était un tel bonheur d'être entre nous, dans ce décor de fou, avec cet univers de malade, là.
En tout cas, venez ce soir participer au bonheur et peut-être le partager également avec les spectateurs. À partir de 20h, c'est au Majestic à Compiègne. C'est quoi l'actu prochaine ? Est-ce que vous êtes en train de travailler sur un prochain film ? Là, il y a une BD qui vient de sortir. Est-ce qu'il y a une prochaine BD qui va arriver ? C'est quoi l'actu ?
Oh là, pour l'instant, j'accompagne un peu mes deux gosses, le bouquin et puis le film. J'essaie justement de lui donner une existence avant la sortie nationale. Parce que c'est une façon réellement de rencontrer le public et puis de donner l'envie, parce que c'est une époque quand même assez compliquée, où il y a quelques semaines, il y a 3 semaines de ça, il y a eu 30 films qui sont sortis dans la semaine, donc autant dire que c'est des sorties à la grenade et à la mitrailleuse. Il y a l'année dernière, au mois de juin, il y avait 500 films qui étaient sur les étagères, plus de deux ans de programmation, 2 ans et demi de programmation. Et le cinéma continue à tourner.
Bien sûr, c'est clair.
Et du coup, il y a une espèce d'effet entonnoir qui fait qu'il y a déjà une partie des films qui sont soldés sur les plateformes. Et là, ça, c'est moi que ça implique, mais il y a eu tellement de ce film. Je ne parle pas de ce que j'en ai fait, parce que j'étais loin d'être tout seul, il y avait toute une équipe, mais je ne me vois pas dire à mon équipe que je vais laisser passer ce truc-là en photocopie sur les plateformes, sans m'être battu pour le montrer à au maximum de gens, certes, mais me dire que je n'ai pas fait mon boulot d'accompagnateur de ce projet. Je suis initiateur, mais je suis aussi le garant de la visibilité de ce film. Donc je le dois aux acteurs, à l'équipe, à tout le monde. Quoi.
En tout cas, pareil pour les spectateurs. Hein, si vous souhaitez voir des films au Majestic qui ne sont pas programmés, n'hésitez pas à leur envoyer des petits mails, aussi passer par nous. Hein, des fois, on programme des choses. C'est vrai qu'il y a énormément de propositions. Quand on a commencé à bosser avec le Majestic, des fois, le mercredi, il y avait 20 films à l'affiche. Et du coup, les films, ils restent une semaine. Voilà, souvent, les blockbusters restent longtemps parce que c'est rentable, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de propositions de films au cinéma, et surtout avec tout ce qu'il y a en plus sur les plateformes, les Disney+, les Netflix et compagnie, la proposition elle est vraiment énorme dans le cinéma en tout cas.
Ouais, donc il y a beau le tamis ne laisse passer que les gros, et paradoxe du tamis. mais du coup c'est vrai qu'il faut que
la vie des films est parfois plus longue du coup pour ce genre de proposition.
Donc le truc moi c'est de l'accompagner, puis de me dire justement tirons des leçons de ces confinements, en se disant on va repartir un peu à la base et faire du travail d'accompagnement et de
proximité, d'échange, de partage avec les gens. Moi, je trouve que c'est vraiment bien. Hein.
Ouais, puis
c'est en plus très adapté à ce film-là.
Ouais, puis
et il y a l'époque qu'on vit. Quoi, donc,
J'ai fait beaucoup de petites salles de communes municipales qui ne voyaient jamais de réalisateurs ou d'acteurs. Et ça crée un petit événement, puis une discussion, parce que j'apprends autant des projections et de mes lecteurs que de moi-même. Tout d'un coup, il y a des choses que je n'ai pas lues, que je n'ai pas vues, que je n'ai pas analysées, et de voir un peu comment l'autre va nourrir le projet, c'est toujours bien.
Pour vous, Azik, c'est quoi la suite de... C'est quoi l'actu chaude ?
L'actu, je retourne dans la rue avec ma compagnie de danse, la compagnie Écart, et pour un spectacle déambulation qui s'appelle Les Hommes Fument. Et on sera la prochaine fois à Saint-Étienne. Voilà.
Vincent, toi, ton actu en ce moment des tournages ?
Oui, on a un casting qui a bien marché, qui va se réaliser normalement, que je tais parce que ce n'est pas encore signé. Il paraît qu'il ne faut pas le dire, donc je le dirai pas. Mais voilà, qui devrait être une belle aventure encore. Et puis oui, le travail avec le bord de l'eau, le travail de transmission, de soutien aux jeunes artistes, à toute cette ruche d'artistes. Et ouais, c'est pas un travail passionnant.
Nouvelle association qui s'appelle le Placard à Ballet, qui est sorti
qui rassemble un peu tous les anciens, tous les artistes et techniciens qui sont passés par le bord de l'eau, par les ateliers théâtre, et qui leur permet de se retrouver, de se rencontrer, de déclencher des envies, des rêves en commun. Et de voilà, c'est l'idée, c'est vraiment de permettre à des projets de se réaliser.
C'est la division d'honneur du bord de l'eau, quoi. De l'acte théâtral. Merci beaucoup d'être passé dans nos studios aujourd'hui. On vous donne rendez-vous ce soir à 20h au Majestic à Compiègne. N'oubliez pas, pour une projection descendant. Et puis, bonne séance. On se retrouve tout à l'heure. Et puis, merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez pris l'émission en cours de route, elle est podcastable et la retrouvez là également sur Internet, sur Facebook. Merci.
Merci à vous.
Merci à toi.